mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais le voilà! Mais oui, je vois qu'il a mis son slip tricolore pour l'occasion. Bonjour, Cosmo Flash!
Bonjour, Antoine. Bonjour, Jean-Michel.
Bonjour, Charline.
Très élégant, Cosmo. Je vous présente donc Jean-Michel Apathy qui parle de choses sérieuses, lui. Et vous, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Cette semaine, je vais vous parler à travers quelques exemples de la relation entre les élections présidentielles et le podcast, et notamment aux États-Unis.
De podcast, donc. Et de podcasts politiques.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Okay. Alors depuis très longtemps, maintenant, on a l'habitude d'associer les élections avec des types de médias émergents au moment du scrutin. En 2007, en France, on a parlé de l'influence des blogueurs. En 2008, la campagne de Barack Obama avait été l'une des premières à utiliser efficacement les réseaux sociaux, naissants à l'époque. Et on sait maintenant le rôle crucial qu'a joué Facebook dans l'élection de Donald Trump en 2016. Alors naturellement, je me suis posé la question de savoir si les élections présidentielles pouvaient désormais se jouer en podcast et quel rôle ce média peut avoir dans la stratégie des candidats. En France, on a peu d'exemples de candidats ou de familles politiques s'étant livrés à cet exercice, mais aux États-Unis, bien évidemment, le podcast avait déjà fait ses preuves. En 2016, c'est Hillary Clinton, la candidate démocrate, qui s'était livrée à cet exercice en lançant un podcast With Her, avec elle en français, pour suivre ses trois derniers mois de campagne. Le podcast s'est arrêté le 7 novembre 2016, un jour avant l'élection. À la suite, hein, vous la connaissez, c'est Donald Trump qui l'emporte à la surprise générale.
Ah bon?
Oui. Et il faudra quasiment un an pour qu'Hillary Clinton se réinstalle au micro de son podcast pour raconter la nuit de l'élection et épiloguer sur sa campagne. Dans l'extrait qui va suivre, elle vient de se lever d'une petite sieste pendant la nuit. Elle rejoint sa war room et elle décrit les visages d'enterrement et l'incrédulité de ses équipes.
Well, what happened next is that, you know, I walked into the main room in the hotel to see a lot of very grim faces. My campaign chairman and manager, other staff members, friends, family members. Just with a look of disbelief. And, you know, I still have something of that disbelief because it just didn't add up from what we were seeing, what we were testing, early vote totals. It was just hard to take on board.
Alors, l'intimité du format podcast aurait dû offrir une occasion de se montrer plus personnelle et décontractée avec les électeurs américains, mais force est de constater que ça n'a pas tout à fait fonctionné. Malgré tout, ce podcast est important parce qu'il nous donne un témoignage précis, sensible un peu de cette période, et surtout on y entend pour la première fois, à l'époque, le récit de cette soirée historique du point de vue de la candidate en fait. Mmh. Aux États-Unis, la politique c'est aussi un tremplin pour se lancer dans le podcast, c'est le cas de quatre anciens collaborateurs de Barack Obama, John Favreau, John Lovett, Dan Pfeiffer et Tommy Vietor, bon là c'est leur prénom, ces quatre garçons dans le vent lance en 2017 leur podcast Pod Save America, petit jeu de mots, il est sympa. Le succès est largement au rendez-vous, l'émission compte en moyenne plus de 1,5 million d'auditeurs par épisode, et le format est très simple, c'est une conversation sans tabou sur l'actualité politique, avec des explications précises de spécialistes du paysage politique américain. Par exemple, dans l'un des derniers épisodes, John Favreau, qui est un peu la voix principale du podcast, nous parle d'une interview surréaliste de Madison Cawthorn. Alors lui, c'est un député républicain du Congrès, et dans cette interview, il accuse les collègues de son parti d'organiser des orgies et d'être addict à la cocaïne. Ça fait beaucoup réagir son camp, vous imaginez bien. Et du coup, John nous explique qui est ce monsieur et ses liens avec la droite conspirationniste.
So, Madison Cawthorn says this. Keep in mind, Madison Cawthorn has said a number of completely batshit crazy things. He cheered on the insurrection. He's had a racist website that he's been called out for. Like, the guy is bad news. He's like fringe right Marjorie Taylor Greene territory. But this, Dan, this statement about the coke orgies, this got Republicans pretty upset.
Voilà, alors pour le New York Times, hein, Pod Save America, c'est vraiment l'un des grands succès du mouvement de résistance entre guillemets à Donald Trump, et c'est un peu la réponse des démocrates aux talk-shows conservateurs de Fox News et consorts.
Bon, un dernier podcast pour la route.
Voilà, bien sûr, j'en ai toujours un dernier. Et le dernier, donc, c'est plutôt ce que je qualifierais d'un outil plutôt militant pour la politique aux États-Unis. Il s'appelle Chapo Trap House. Alors, je traduirai pas parce que c'est une blague qui a plein d'explications différentes et j'ai pas deux heures devant moi. Et donc ça, c'est un podcast politique d'humour lancé en 2016 par trois comédiens connus sur Twitter et deux journalistes. Le podcast s'est notamment fait connaître durant l'élection présidentielle américaine donc de 2016 pour son commentaire de gauche à rebours de l'establishment démocrate et favorable au candidat Bernie Sanders. Chapo Trap House a notamment donné aux personnes frustrées par le parti démocrate un peu d'air frais alors que les perspectives de victoire de Sanders à la primaire s'étaient assombries. Alors pour vous donner le ton, je vous mets un extrait du dernier épisode en date qui commence avec un petit résumé de l'actualité et notamment la première victoire d'un mouvement syndical chez Amazon.
Big, big victory on the union vote for the Amazon people. And I will say, for listeners, we should have an interview coming tomorrow, if all goes well, that should be of some interest if you've been following this case. But
we'll be interviewing Jeff Bezos.
Voilà, l'émission est étroitement liée à la culture Twitter et un discours de gauche moins policé, parfois plus vulgaire que les médias mainstream. Et c'est bien ça qui a fait son succès. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Le podcast engrange plus de 250 000 téléchargements par épisode et reste entièrement indépendant grâce au soutien de plus de 35 000 mécènes sur la plateforme Patreon. Un business juteux puisque ces soutiens rapportent aux producteurs du podcast plus de 150 000 dollars par mois. Ce qui fait donc de ce contenu politique l'un des succès économiques les plus impressionnants dans le petit monde du podcast.
Merci Cosmo Flash. Dernière question, les super-héros, ça vote ?
Alors non, j'arrive pas parce que tous les bulletins volent de partout quand j'ai des rues de bureau de vote, donc c'est trop compliqué.
Même en slip, moule urne.